pratiquement 19h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ? Fausses
offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Et c'est maintenant l'heure du Canyon Fou. Alors, de quoi est-ce qu'on va vous parler ce soir? On va commencer au niveau du local par vous parler d'une manifestation contre les violences sexuelles et sexistes à l'ENS de Lyon. Puis, du côté du national, on va vous présenter ce beau mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui a commencé déjà fin mars du côté de Besançon, qui continue à partir de demain du côté de Rennes et qu'on aura envie de suivre pour les prochains mois. Puis ce sera du côté des violences policières qu'on ira, puisqu'on va vous parler d'Assa Traoré, qui est à nouveau mise en examen. Puis on vous fera un petit blougi-blouga de revue de presse entre le dernier rapport d'Amnesty International et toujours cette loi de sécurité globale qui plane au-dessus de notre tête. Pour finir par le traditionnel agenda. Bonne écoute sur le Canu Info en ce vendredi 9 avril.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève.
On a des
interventions
sur le
rassemblement
pour le Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Tout ce que je vais raconter, là, se passe à l'ENS de Lyon. Donc, vous savez, cette grande école prestigieuse, normalement, voilà, où on forme les élites et tout. Du coup, suite à la révélation d'affaires de violences sexuelles et sexistes, les étudiants et les étudiantes et les personnels s'organisent. Ça commence au mois de février, à la suite d'un CHSCT particulièrement tendu. Le CHSCT, là, c'est ce truc où il y a les représentants et les représentantes des salariés, de la direction, et puis du coup, c'est une espèce d'endroit où on essaie de se mettre d'accord un petit peu, là où il y a ce qu'ils appellent le dialogue social, entre guillemets. Mais du coup, dans ce CHSCT, il y a des représentants et des représentantes des salariés, du coup, et des étudiantes, qui ont pu se rendre compte en fait que la direction faisait très peu de cas de la question des violences sexuelles et sexistes, et du coup la lutte contre ces violences ont pris de l'ampleur dans les écoles, dans l'école de l'ENS. Les étudiants, les étudiantes et les professeurs témoignent de l'absence de dispositifs de signalement conséquents, alors même qu'il y avait plusieurs cas qui ont été révélés. Et du coup, il y a eu d'abord une première manifestation suivie d'articles de presse qui ont révélé des témoignages de personnes ayant subi des violences sexuelles et sexistes. Et il y avait même, du coup, les manifestants et les manifestantes s'étaient introduits dans le bureau de la direction au cri de « violences sexistes, école complice ».«
Complice, violences sexistes, école complice ».
du coup, à ce moment-là, eh ben, la direction a été obligée d'agir. Et du coup, c'est un peu dans ce cadre-là qu'une manifestation a été organisée ce 1er avril. Et du coup, c'est une centaine de personnes qui se sont réunies dans les jardins de l'ENS pour dénoncer l'inaction de la direction face aux violences sexuelles et sexistes. Ils et elles entendent bien maintenir la pression, alors même qu'une enquête de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a été ouverte cette semaine. Selon les mots du ministère, elle a pour but de contrôler que les procédures mises en place par l'école permettent bien aux victimes présumées d'être entendues et accompagnées. Voilà, parce que du coup, ce qu'ont peur les étudiants, les étudiantes et les professeurs, c'est que du coup, il y ait des instances effectivement où on puisse signaler des violences sexuelles et sexistes, mais que il n'y ait pas d'effet derrière, en fait, que ce soit juste un endroit où on parle. Et du coup, là, ben, du coup, ils et elles ont décidé de s'organiser, donc on attend la suite avec une grande impatience.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Dans ce Canyon Info, on avait aussi envie de vous parler de cette énorme dynamique, les soulèvements de la terre, appelés par des fermes, des collectifs de la forêt comme de la ville. Bref, une constellation de personnes en lutte pour un monde habitable et désirable, qui propose un programme d'action pour les saisons à venir. Faire cesser le ravage climaticide, se rassembler pour sortir de l'impuissance, remettre les mains dans les terres et décider collectivement de leur futur, afin de se défaire du règne de l'économie. Alors je vais commencer par vous lire un peu leur appel pour vous situer qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Depuis longtemps, l'économie nous a séparés de la terre pour en faire un marché. Erreur fatale qui nous mène droit au désastre. La terre n'est pas du capital. C'est le vivant, le paysage et les saisons. C'est le monde que nous habitons, en passe d'être englouti par la voracité extractiviste. Après avoir encloué et privatisé les communs, le marché capitaliste et ses institutions précipitent aujourd'hui le ravage de la biodiversité, le bouleversement climatique et l'atomisation sociale. Nous ne croyons pas dans une écologie à deux vitesses, dans laquelle une minorité se targue de manger bio et de rouler en 4x4 hybride, tandis que la majorité est contrainte de faire des jobs subis, de longs trajets quotidiens et de manger low cost. Nous n'acceptons pas que les exploitants agricoles soient réduits au rang de sous-traitants suréquipés et surendettés de l'industrie agroalimentaire. Nous ne nous résoudrons pas à contempler la fin du monde, impuissants et impuissantes, isolés et enfermés chez nous. Nous avons besoin d'air, d'eau, de terre et d'espaces libérés pour explorer de nouvelles relations entre humains, comme avec le reste du vivant. Ce bout d'extrait, il a été écrit par des personnes venues de toute la France. Ils étaient plus d'une centaine à se retrouver à Notre-Dame-des-Landes en janvier dernier. Des sensibilités, des parcours et d'horizons très différents, mais avec quand même des constats communs qui les ont rassemblés. L'incertitude produite par la crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de nous projeter et de nous organiser sur le long terme. Nous voulons faire advenir des soulèvements pour la défense de la Terre comme bien commun. Nous voulons arracher des terres à l'exploitation capitaliste pour constituer des espaces libérés, propices à une multiplicité d'usages communs, de relations et d'attachements. Nous voulons défendre le monde vivant grâce à une agroécologie paysanne et solidaire, à la protection des milieux de vie, à une foresterie respectueuse. Et du coup, selon cet appel, cela commence par trois gestes. Le premier, pour faire cesser le ravage, nous appelons à enclencher le frein d'urgence, à concentrer nos forces pour cibler, bloquer et démanteler trois des industries toxiques qui dévorent la terre, celle du béton, celle des pesticides et celle des engrais de synthèse. Nous nous retrouverons en juin et à l'automne pour des grosses actions de blocage d'industrie. Le deuxième geste, c'est remettre la terre entre nos mains et l'arracher des griffes des accapareurs, exige que nous soyons chaque jour plus nombreux et plus nombreuses à remettre les mains dans la terre. Des centres urbains jusqu'aux confins des périphéries, nous appelons à des reprises de terre par l'installation paysanne, le rachat en commun ou l'occupation. Nous nous retrouverons dès ce printemps pour des actions d'occupation de terres contre l'artificialisation. Et enfin, pour restituer aux habitants et aux habitantes et aux paysannes et aux paysans de chaque localité le pouvoir de décider de l'attribution, l'usage et la destination des terres,
nous appelons à s'introduire en masse, chaise en main, dans les diverses institutions et lieux de pouvoir où se décide sans nous le devenir de la Terre. Nous ne pouvons laisser plus longtemps ce pouvoir entre les mains de la FNSEA et de l'agro-industrie, des aménageurs et des bétonneurs. Nous nous retrouverons à partir de la rentrée prochaine pour occuper ces lieux de décision. En fait, cette première saison des soulèvements de la Terre, ça a déjà commencé par une première vague d'occupation de terre et de blocage contre le bétonnage. Le 27 mars, c'était au VET, à Besançon. C'est des jardins populaires contre l'extension urbaine. Donc ce samedi 27 mars, se tenait le premier acte des soulèvements de la terre à Besançon. C'est 800 personnes qui ont manifesté depuis la place de la Révolution jusqu'au jardin des Vettes. Il y avait dans la rue beaucoup de Byzantins et de Byzantines, fort attachés à ces dizaines d'hectares de jardins populaires et autogérés, et déterminés à ne pas les laisser se faire bétonner. Mais il y avait aussi de nombreux Dijonnais et Dijonnaises, habitants ou usagers du quartier des Lentillères, ancrés sur ces terres maraîchères longtemps menacées par un projet d'urbanisation récemment abandonné. Il y avait aussi des soutiens venus des quatre coins du pays pour se lancer dans les soulèvements de la terre et découvrir, à l'occasion de ce début de campagne nationale, cette lutte byzantine en plein essor.
Nom de Dieu.
Quand l'actu te fait péter un câble, branche-toi sur disjoncté.info.
Alors, la question c'est, qu'est-ce qui t'a marqué dans la journée de samedi ?
Bon, je suis arrivée la veille, du coup c'est un peu triché, mais c'était les rencontres avec les gens des Vettes, avec les sorcières des Vettes et d'autres personnes autour. J'ai été accueillie par Adeline, donc une des deux maraîchères qui a ses serres et ses jardins sur le lieu. Et c'était très puissant, la force qu'elle a, elle m'a vraiment raconté toute l'histoire du lieu et comment elle vivait avec les gens autour. Et j'ai été super touchée et inspirée. Voilà, du coup j'étais fière de passer du temps avec elle et d'accompagner son projet et cette lutte.
Et ben moi, mon moment préféré, c'est quand la police pensait qu'on lui tendait un piège. En fait, le poids lourd était arrêté au milieu d'un carrefour sur les voies du tram, et derrière nous, il y avait un tracteur qui était aussi bloqué sur les rails du tram. Et là, vraiment, la police pensait qu'on était en train de leur tendre un piège. En plus, on avait laissé la musique, les gens commençaient à danser au balcon, alors qu'en fait, pas du tout. Le tracteur, il était tombé en panne, et certainement que le poids lourd était en train de tomber en panne d'essence. Et voilà, c'était super.
Alors, ce qui m'a marqué dans cette manif, en conduisant le tracteur avec une de mes camarades, c'est qu'il y a deux personnes qui sont venues nous voir pour nous dire que c'est inacceptable de conduire un tracteur aussi longtemps dans une manif écolo. Moi, j'ai essayé de leur répondre, malgré le bruit du moteur, qu'il n'y avait pas que l'écologie dans la vie. Et en fait, à ce moment-là, j'étais assez troublée et un peu agacée par cette situation. Et je me suis retournée et j'ai vu la batucada féministe. Les trois meufs qui étaient sur les deux tracteurs et le son de système qui passait de Joule au loin. Je me suis dit, ah ouais, c'est beau qu'une lutte pour la réappropriation des terres maraîchères où elle soit peuplée d'énergie féministe et de plein d'autres luttes. Voilà, c'était un peu joyeux de sentir ça dans ce moment un peu bizarre et énervant. Voilà.
Alors toi, qu'est-ce que c'était ton moment préféré de cette manif ?
Ah, c'était quand il y avait le panneau ouvert. Et j'ai arraché la pub.
Donc mon moment préféré, c'est qu'on a en fait pendant la manif fusionné deux groupes de musique de manifestation et qui n'avaient jamais joué ensemble. Et à un moment, en fait, il y avait plein de gens qui avaient ramené des instruments et on a fait un espèce de jam pendant 10 minutes. Et c'était vraiment super de jouer avec plein de gens, même si peut-être que de l'extérieur, ça a donné un espèce de truc pas très audible. Mais en tout cas, de l'intérieur, c'était super.
Donc samedi, en queue de cortège, il y avait un poids lourd qui tirait un son de système. Le problème, c'est que juste avant d'arriver sur les jardins, il s'est embourbé.
Ouais, il s'est embourbé et en fait, il a fallu que tout le monde pousse le camion pour le faire reculer. Les gens ont mis des pierres sous les roues pour qu'ils puissent repartir sur la route. Et en fait, tout le monde a poussé ensemble le camion pour qu'ils reprennent la route. Et ce qui était assez ouf, c'est que le sound system n'a jamais été coupé. Ce qui fait qu'on est reparti après sur Mylène Farmer, ouais, désenchanté. Et c'était vraiment assez ouf. Après, le seul bémol, c'est que c'était un peu dangereux. Donc du coup, il fallait faire attention que personne ne se fasse mal, quoi.
Bah vraiment, pour moi, le meilleur moment de cette manif et de cette journée, ça a été le moment de l'arrivée sur les Vettes. On a dû lâcher le camion qui était encore embourbé et On est parti, on n'avait pas fait 200 mètres qu'on a entendu tout est KO de Mylène Farmer. On a entendu des gens s'exclamer. On avait ça dans notre dos, on était porté par ce souffle. Devant nous, il y avait toute la manif qui défilait sur la saignée qui a été faite par les travaux il y a quelques mois. Et on avait vraiment l'impression qu'on allait conquérir de nouveau les vêtes avec cette rampe de lancement que représente cette saignée. Et qu'après ça, tout le monde s'est déployé sur le site. Et c'était un peu la joie de se retrouver tous ensemble et pour une après-midi à cultiver, à reprendre des terres. Les tracteurs ont commencé à labourer, les gens se sont installés. C'était le début d'une après-midi magnifique, quoi.
En arrivant au Vette, j'ai aimé visiter le cimetière juif qui est à l'intérieur. Il est hyper ancien. Il y a des très très vieilles tombes super belles. Et là-dedans, il y a 2-3 personnes un peu mégalos qui sont fait des mausolées énormes. Du coup, il y a une pyramide qui domine tout. C'est un peu beau, c'est un peu chouette. Et c'est un peu rare aussi.
On remercie le site disjoncté.info qui nous a permis d'avoir ce reportage sonore sur cette manifestation qui avait l'air d'être drôlement chouette au VET le 27 mars. Et alors ça, vous l'avez compris, c'est que c'était le début de plein d'actes pour les soulèvements de la Terre. Et on vous en parle puisque à partir de demain et après-demain, à Rennes, à la Prépaille, il y a des luttes de culture collective contre la métropole. Donc les collectifs présents proposent un week-end d'activités. Et ce, malgré le nouveau confinement, les rassemblements sont déclarés, l'événement est pensé dans le respect des gestes barrières dans un site étendu et en plein air, assurent les organisateurs et les organisatrices. Il n'y a plus aucune raison pour ne pas y aller. Et du coup, demain à 10h, il y aura une manifestation fourche en main jusqu'à la Prévalet, puis une cantine à la Prévalet dans le respect des règles sanitaires. L'après-midi sera consacré à une plantation sur les terres menacées, des ateliers pour les enfants, des balades naturalistes, des discussions sur les luttes foncières et paysannes locales. Mais ça continue dimanche avec cantine et des parcours musicaux pour les enfants, des balades et des ateliers de co-construction d'un contre-projet pour la Prévalet. Et c'est évidemment pas fini puisque ces soulèvements ils vont durer tout le printemps. Si vous n'êtes pas prêt à aller à Rennes pour demain 10h, ne vous en faites pas puisque les 22 et 23 mai au Pertuis en Haute-Loire, la Haute-Loire c'est pas très loin de Lyon, on pourrait rejoindre une lutte de paysans expropriés contre la construction d'une déviation routière. Zut, vous êtes pris le 22-23 mai, pas de panique, les 19, 20 et 21 juin à Saint-Colomban en Loire-Atlantique. Alors là, il va peut-être falloir reprendre votre pouce, votre voiture ou le train pour faire la défense du bocage menacé par les carrières de sable et le maraîchage industriel. On pense aussi qu'au cours du printemps, sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, il y aura des mobilisations pour des terres agricoles contre le Technopole. Et à partir du 29 juin, il y aura une semaine d'action de blocage d'envergure et simultanée, ciblant l'industrie de la construction et du Grand Paris. Et tout ça pour finir les 3 et 4 juillet par un grand rassemblement festif qui aura lieu pour célébrer la fin de cette saison 1 sur des terres à défendre en Île-de-France. Vous l'avez compris, un peu toutes les mobilisations contre les projets inutiles qui saccagent les terres et qui luttent pour une autre vision de l'agricole se multiplient, se coordonnent et tout ça, et ben, ça fait plutôt plaisir.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police qui tue, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues? Nous sommes salariés. La police mutile.
Violence policière.
Après la mort d'un jeune homme, il y a quelques jours alors qu'il était en garde à vue, sa famille accuse les gendarmes de l'avoir frappé et provoqué son décès. L'autopsie, elle, donne une toute autre raison.
Des foyers infectieux situés sur plusieurs organes ont été relevés lors de l'autopsie. Il n'y a pas de lésion faisant penser à des violences entraînant le décès de cette personne.
Nous avons constaté que les rapports des pompiers ainsi que le rapport du service mobile d'urgence et de réanimation, ce qu'on appelle le SMUR, n'ont pas été transmis au juge d'instruction indépendant chargé de l'enquête sur les causes de la mort.
Plus de deux semaines après les faits, l'expertise de la voiture de gendarmerie ne figure pas non plus dans le dossier. L'avocat de la famille Traoré craint que ces fichiers n'aient pas été transmis volontairement.
La seule question qui demeure, c'est qui sont les personnes qui ont commis ce meurtre et qui sont celles qui l'ont couvert. Notre seul et unique objectif est la manifestation de la vérité.
Nous, notre combat aujourd'hui, c'est de que les personnes qui ont assassiné, je dis bien assassiné Adama Traoré, soient traînées, je dis traînées au tribunal, comme ils ont pu traîner mon frère, voilà, à la mort.
C'est Adama, c'est frère à tout le monde ici. Si vous êtes tous venus, c'est que vous avez un gros cœur. Adama, il avait un gros cœur. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes avec nous. Le combat continue, on lâche rien, on est ensemble.
Aujourd'hui, on est fiers de vous, parce que sans vous, nous, on n'est pas là aujourd'hui. C'est vous notre force, c'est vous qui nous sauvez, vous êtes un socle pour nous. Et merci beaucoup, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, on aurait pu être tout seul. Donc, il y a des familles aussi qui sont là, des familles de victimes. On tient à les remercier, parce qu'ils ont perdu des victimes avant nous, cette douleur, ils l'ont connue avant nous. Donc, c'est un soutien aussi pour nous, parce qu'ils savent trouver les mots, les bons gestes, et en tout cas, nous guider vers le bon chemin, le chemin de la justice. Quel chemin faut prendre ? Tous ces collectifs qui nous ont soutenus, toutes ces associations, elles se reconnaîtront. Et cette force, c'est ça qu'il faut faire entendre. Aujourd'hui, si on vous convie aussi, c'est pour vous dire que le combat n'est pas fini, que la mobilisation, elle est là, et que la mobilisation sera encore plus forte. Aujourd'hui, on met les deux pieds. Mon frère a été tué, et les 16 gendarmes doivent répondre de leurs actes. Donc un dépaysement a été demandé, on attend que le dépaysement soit demandé. Et une demande sera faite aussi pour que ces gendarmes soient mis en examen. L'abus de pouvoir va qu'il continue. Ce ne sont pas des surhommes, ils n'ont pas plus de droits que nous. Là on vous demande encore d'être nous, d'être derrière nous parce que le combat va être plus grand et plus fort. La mise en examen ne sera pas mise comme ça, il faudra pousser, il faudra qu'ils nous entendent. Et là je demande à vraiment que ce soit toute la France qui se mobilise. Le jour où la justice ne va pas nous entendre et qu'ils vont nous dire que la mise en examen ne sera pas possible, il faudra aller dans les rues. On est avec vous, on mange, on partage ce repas, on sourit, on rigole, on pleure. Mais après, il faudra aller au front. Et ce front, on a besoin que vous soyez tous là avec nous, tout le monde. Que toute la France, que tous les pays se lèvent pour ces gendarmes qui ont tué notre frère dans des conditions atroces. On va épargner les détails. Mais mon frère, il est mort sans dire un mot à qui que ce soit. On ne sait même pas ce qu'il pensait quand il courait dans cette ville de Beaumont pour échapper à ces gendarmes. Et continuer en tout cas cette mobilisation-là. Et cette mobilisation-là ne doit pas s'arrêter qu'à Adama. C'est-à-dire que demain, si une autre personne est victime de bavures policières ou que ses droits sont bafoués, tout le monde doit se lever. Pour toute bavure, pour tout, il faut que tout le monde se lève. On est dans un pays de droit, on a cette chance. Mais il ne faut pas se laisser faire.
Assa Traoré est à nouveau mis en examen. La justice s'acharne contre la famille Traoré. Ce jeudi 8 avril, la justice a décidé de mettre en examen une nouvelle fois Assa Traoré. L'acharnement judiciaire contre la famille d'Adama se poursuit tandis que les gendarmes mis en cause dans l'affaire ne sont toujours pas inquiétés. Depuis 2016, la famille Traoré se bat pour obtenir vérité et justice pour Adama, jeune homme décédé à la suite d'une interpellation par les gendarmes. Assa, sa sœur, est devenue l'une des figures de proue de ce combat. Et plus largement, un symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. 5 ans après, le combat pour la justice de la famille Traoré est loin d'être terminé. En effet, les gendarmes n'ont pas encore été condamnés. Pire encore, les Traoré ont dû à de nombreuses reprises se défendre contre un appareil judiciaire qui n'a cessé de criminaliser cette lutte, avec de nombreuses interpellations et l'incarcération de plusieurs membres de la famille. Ce jeudi 8 avril, Assa Traoré a annoncé sur son compte Instagram être une nouvelle fois mise en examen. Elle dénonce cette poursuite et je vous propose d'écouter donc son communiqué.
Aujourd'hui, la justice de ce pays décide de me mettre en examen parce que j'ai osé dire que Gonzalez, Urin et Fontaine étaient responsables de la mort de mon petit frère. Ces mêmes hommes qui vont expliquer qu'ils ont écrasé le corps de mon petit frère de toute leur force et pendant longtemps. Oui, il faut du temps pour étouffer une personne jusqu'à en mourir. Ces gendarmes qui n'ont toujours pas été inquiétés depuis presque 5 ans aujourd'hui. Mais Adama Traoré est mort. Cette justice française qui ne mérite pas son nom.
quand elle continue à s'acharner et à prendre pour cible la famille Traoré, quand elle décide de me mettre en examen. Cette justice qui protège ces hommes qui ont eu des gestes mortels sur le corps de mon petit frère. Comme si réclamer la vérité et la justice pour Adama Traoré était un crime. C'est un combat que nous ne lâcherons pas. Nous tenons bon grâce à vous, les Français, cette France, le peuple français, qui continue à croire en la vérité et la justice de ce pays. C'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout. Quand les experts du monde entier prouvent et disent que les gendarmes sont responsables dans la mort d'Adama Traoré, la justice française ferme les yeux. La justice française ne les met pas en examen. Mais la justice française met en examen la sœur d'Adama Traoré. C'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout. Je ne suis pas leur victime. Je ne serai jamais leur victime. Leurs coups continuent à glisser sur moi. Je ne me tairai pas. Aujourd'hui, ils veulent me museler. Ils veulent me faire taire. Le chemin de la vérité et la justice, je continuerai à la prendre. Pour mon petit frère, pour Adama Traoré. Je suis convoqué ce lundi 12 avril à 10h au tribunal de Paris. Justice pour Adama, c'est un combat que je ne lâcherai pas. C'est un combat qui vous appartient, à vous tous. Pour la justice de ce pays, pour cette France.
Cette mise en examen est une parfaite expression d'une justice au service de la classe dominante, qui se range systématiquement du côté de l'impunité policière. Cette nouvelle attaque à l'encontre d'Assa Traoré est une attaque contre l'ensemble du mouvement antiraciste et contre l'ensemble des victimes de violences policières. Contre l'acharnement judiciaire que subit la famille Traoré et contre l'impunité policière, il est central de soutenir fermement Assa Traoré, de réclamer l'abandon de toutes les charges contre elle et sa famille et de continuer à exiger justice et vérité pour Adama.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police suicide, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues, où sommes les la police mutile.
Violence policière.
Revue de presse, toujours sur ces questions de sécurité, d'autoritarisme et de violence, malheureusement. On avait envie de revenir pour faire un petit suivi là sur la loi sécurité globale, puisque la droite et LREM sont d'accord pour supprimer globalement nos libertés fondamentales. Et donc cette proposition de loi sécurité globale, qui est désormais rebaptisée, sachez-le, pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, est quand même sur le point d'être adopté, puisque la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée est parvenue à un accord. Et donc a été actée la création dans le code pénal d'un délit de, je cite, « provocation à l'identification » des policiers et gendarmes en guise de réécriture de l'article 24. Loin de répondre aux revendications portées par la mobilisation, ces reformulations maintiennent un flou juridique qui ne pourra que nuire à la liberté d'informer et s'ajoute à la très très longue liste des dispositions liberticides contenues dans cette loi. Rien à voir, vous me direz, mais j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que ça joue aussi sur comment on s'informe, où on s'informe, par qui on s'informe. J'avais envie de vous parler du débat de la majorité des journalistes de la revue Science et Vie. Alors oui, Science et Vie, on ne vous en parle pas souvent dans le Canu Info du vendredi. Mais je trouve là, la question de la science, elle est un peu au centre peut-être de nos conversations depuis un an. Puis ça veut dire quoi, science et démocratie? Où est-ce qu'on s'informe? À qui on fait confiance? Comment est-ce qu'on transmet des savoirs qui sont quand même parfois un peu spécialisés, qu'on met du temps à acquérir? Et bien pour ça, Science et Vie, ça faisait un petit bout d'endroits où on pouvait s'informer tout en restant critique et en sachant d'où ça venait. Mais dans un communiqué qui a été publié le 30 mars, publié sur Twitter, la Société des journalistes de Science et Vie a annoncé la démission collective de la quasi-totalité de la rédaction, 9 journalistes dont 5 titulaires. Résultat, et du coup je cite, « À l'exception d'un rédacteur, le dernier en poste, nommé rédacteur en chef adjoint, la nouvelle organisation se caractérise par l'absence totale d'expertise scientifique au sein de la rédaction. » Il n'y a plus d'autres journalistes en interne pour réaliser le travail de veille d'actualité et de cohésion éditoriale, ni pour assurer l'élaboration d'un sommaire équilibré et dynamique. Cette veille se retrouve confiée, ainsi que la quasi-totalité de la rédaction des articles,
au journaliste pigiste. Cette démission s'inscrit dans une lutte de longue haleine contre... Et parce que pour vous dire, on n'a vraiment rien contre les journalistes pigistes, c'est plus de comment est-ce qu'on pérennise des postes et des personnes qui ont le temps et du coup l'argent, ça veut dire un peu la sécurité de l'emploi, de pouvoir se plonger dans des sujets. Et en fait, ce qu'on avait envie de vous dire là-dessus, c'est que cette démission, c'est parce que c'est Reward Media qui, depuis son rachat du titre en 2019, s'attelle à détruire le journalisme et du coup à pousser à la démission sur les journalistes qu'il y a dans ce média-là. Et donc, si cette décision honore les journalistes, elle consacre, hélas, la victoire définitive de ce groupe prédateur contre Science et Vie. Et aussi pour vous dire ça, qu'en fait, le journaliste, c'est... Il y a très très peu de médias indépendants, il y a Radio Canut bien sûr, mais que du coup c'est pas évident de savoir où s'informer, savoir où s'informer de manière scientifique. Et Science et Vie, même s'il va continuer à s'appuyer sur sa renommée pendant un temps, bah, on aura sûrement plus les capacités de pouvoir vérifier et construire de l'information scientifique. Et enfin, dans cette petite revue de presse, j'avais envie de vous parler du dernier rapport d'Amnesty International. Pareil, Amnesty International, c'est quand même pas les rapports les plus à gauche et les premiers qu'ils soient. Et pourtant, ça fait des années qu'ils étrillent la France de Macron. Et un dernier rapport recommence à dire ça après 2 ans d'interruption. Donc cette ONG renoue avec la publication de son traditionnel rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Et dans de nombreux pays, cette situation est, selon ce document, fort préoccupante. Et c'est le cas notamment de la France d'Emmanuel Macron, où les mesures prises par le gouvernement face à la pandémie de Covid-19, je cite, « ont soulevé un certain nombre de préoccupations en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne l'usage excessif de la force par la police, le droit à la liberté de réunion pacifique et les droits des migrants et des migrantes et des demandeurs et des demandeuses d'asile. » L'application de ces mesures a ainsi révélé un peu... plus au grand jour, l'utilisation récurrente par la police française d'une force illégale, en particulier dans les zones urbaines défavorisées, peuplées majoritairement de personnes issues de minorités ethniques. Amnesty explique avoir recueilli des informations sur au moins 15 cas de ce type intervenus entre mars et avril 2020 dans 15 villes différentes. Dans certains de ces cas, précise l'ONG, les fonctionnaires de police incriminés ont ainsi tenu des propos racistes ou homophobes. Pendant le confinement, explique ensuite le rapport d'Amnesty, les défenseurs et les défenseuses des droits humains qui apportaient une aide humanitaire aux personnes réfugiées et migrantes à Calais et à Grande-Synthe ont quant à eux continué de subir des actes de harcèlement et d'intimidation. Et le préfet du Pas-de-Calais a pris, à l'instigation du ministre de l'Intérieur, un arrêté interdisant la distribution de nourriture et de boissons aux personnes migrantes dans une grande partie de la ville de Calais. Plus généralement, la pandémie de Covid-19 a fait surgir pour les personnes migrantes, en particulier celles qui vivaient dans les campements de fortune à Paris et dans le nord de la France, de nouveaux obstacles à l'accès aux droits économiques et sociaux. Ainsi, le gouvernement a suspendu le traitement de toutes les demandes d'asile pendant le confinement. À Paris et dans le nord de la France, les personnes migrantes et les personnes réfugiées qui vivaient dans des campements de fortune ont cette année encore fait l'objet d'évacuations forcées récurrentes, y compris pendant le confinement, sans que ne leur soit proposée une autre solution d'hébergement, ni un accès aux soins de santé. À Calais, les forces de l'ordre ont régulièrement soumis les personnes migrantes et réfugiées à des actes de harcèlement et un usage excessif de la force. On peut aussi vous parler de, dans cet usage excessif de la force et dans ces interdictions à manifester, cette accumulation d'interdictions complètement arbitraires, parfois sous principe, sous couvert des mesures sanitaires, parfois pas. Juste à Lyon, hein, la manif antifasciste de samedi dernier, elle a été interdite. On comprend toujours pas vraiment pourquoi. Le carnaval qui était déposé, déclaré en préfecture, a aussi été interdit. Et du coup, il me semble qu'il est toujours aussi urgent de s'engager, de continuer à se documenter et de renverser cette tendance nauséabonde.
Des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est
l'agenda.
Et oui, confiné ou pas, il y aura toujours un agenda.
On a surtout deux événements à vous présenter pour ce week-end. Et bah, commencer par samedi, du coup demain à 14h, il y a une manifestation pour la fermeture des centres de rétention. Donc en novembre 2019, le gouvernement a annoncé la construction de 3 nouveaux centres de rétention, ou CRA, à Orléans, à Bordeaux et à Lyon. Il y a un appel du coup unitaire pour une manifestation pour la fermeture des centres de rétention et la régularisation des sans-papiers demain à Lyon. Le départ se fait place Bellecour. Et du coup, après avoir retrouvé les copains le samedi, vous pouvez aussi les retrouver le dimanche, puisque c'est le collectif Solidarité Cusset qui fête ses 1 an. Alors, qu'est-ce que c'est le collectif Solidarité Cusset? On vous en a parlé maintes fois dans ce Canu Info du vendredi. C'est un collectif qui s'organise depuis 1 an, qui a commencé du coup pendant le premier confinement à faire des distributions alimentaires, à se mettre en lien dans tout le quartier autour de Grand Clément, Cusset, en tout cas globalement dans le sud de Villeurbanne, pour faire des distributions alimentaires et de produits d'hygiène qui étaient organisées 2 fois par semaine. Et puis en novembre 2020, après avoir demandé sans succès des locaux à la mairie de Villeurbanne pour poursuivre ses activités, ce collectif a décidé d'investir un bâtiment laissé vide depuis plusieurs années. Et c'est comme ça qu'est née l'illégalité dont on vous a parlé, qui est aujourd'hui un risque d'expulsion, mais qui existe toujours à Cusset et dans lequel vous pouvez vous rendre pour ces distributions ou pour manger des crêpes, par exemple. Tout ça pour vous dire que dimanche, à partir de 11h, le rendez-vous est donné place Jules Grand Clément à Villeurbanne pour un rassemblement de soutien à l'illégalité et plus globalement au collectif Cusset, et que de 15h à 19h à l'illégalité, justement, vous pouvez venir fêter avec le collectif, comme il se doit, son anniversaire. Vous pouvez apporter vos meilleurs gâteaux pour leur grand concours de gâteaux. Ils vous attendent avec impatience pour souffler leurs bougies, avec visiblement plein d'autres surprises.
Acab.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Bonjour, et eh ben écoute, ce soir ACAB, ça veut dire appel Canu pour nous apprendre des blagues, parce que sache-le, on a loupé le 1er avril. Voilà, on vous laisse avec les bandes continues. À tout bientôt sur les ondes de la radio.